France Culture.
Je dirais que c'est pas une histoire. Je cherche, je vais à la recherche de cette fille que j'ai été, parce que c'est comme à la fois une étrangère et en même temps de cette fille j'ai la mémoire. Tout l'enjeu c'était d'essayer de me rapprocher d'elle, de la rejoindre par l'écriture pour comprendre tout ce qui s'est passé.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Deux livres au programme de votre book club aujourd'hui, deux premiers romans que l'on rapproche pour leur façon de lier vie, mort et vie. Leur façon de démonter la honte, retrouver l'enfance. Deux livres qui comptent dans leur géographie les terres algériennes, mais pas que. Sur la carte, on peut aussi mettre une fléchette sur le Québec, Montréal, la cité des 4000 à la Courneuve, le quartier de Belleville, à Paris. À chaque fois, les narratrices font de leur entrée en poésie, celle du rap ou de la classe de français et ou de la tradition orale, une étape aussi décisive que leur première règle, le premier deuil, le premier rapport sexuel, la première agression, le premier amour. Chauve publie Vie, mort, vie aux éditions du Tumulte. Anya Nousri publie On m'a jeté l'œil aux éditions du Castor Astral. Elles écrivent toutes deux sous pseudonyme et sont nos invités. Ensuite, et comme chaque mardi, nous retrouvons Mathilde Wagman pour parler littérature jeunesse aujourd'hui. Elle évoque le théâtre de William Shakespeare, Macbeth, Othello, Hamlet et compagnie, transformé en conte pour enfants. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Chauffe.
Bonjour Marie.
Soyez la bienvenue. Vie, merci. Mort, vie, apparue chez Tumulte Édition. On est ravis de vous recevoir. On a beaucoup aimé ce livre. Bonjour Anya Nousri.
Bonjour.
Votre livre « On m'a jeté l'œil » apparu aux éditions Le Castor Astral. On est ravis de vous recevoir aussi. On a beaucoup aimé votre texte. C'est joyeux.
Merci.
C'est très joyeux pour nous d'entendre voilà, des voix nouvelles, des entrées en littérature, des premiers romans. Ici au Book Club, tout commence toujours par ce qu'on appelle un questionnaire lecture. On se dit qu'on va faire connaissance avec nos invités en se demandant si ils ou elles ont rencontré des livres sur leur parcours et comment ils ou elles ont forgé leur rapport au mot. Il se trouve que vous en parlez dans vos textes, justement, du rapport au mot, du rapport à la poésie, du rapport aussi aux mots qu'on dit et à la transmission orale. Est-ce que vous avez grandi, je trouve, dans un endroit où il y avait des livres, où c'était important, les livres ?
Oui. Non, j'avais une maman qui lisait beaucoup et qui m'a transmis cet amour-là. Après, j'étais toujours très, très curieuse parce que c'était beaucoup de lectures mystiques, ésotériques, des contenus un peu apocryphes comme ça qui interrogent. Donc, voilà.
Et vous étiez curieuse de l'objet livre, de votre mère qui lisait ou de cette dimension plus spirituelle, apocryphe ?
Des deux, des secrets qui se cachent derrière les livres et de tout ce qu'on peut découvrir et qu'on comprend pas, de l'invisible. Et j'avais tendance à penser même que derrière ces livres, il y avait vraiment des réponses à des questions très existentielles qu'on se pose quand on a 8-9 ans.
Donc, et ça marche ou ça marche pas ?
Pas vraiment.
Pas vraiment. Ça a fait de vous une lectrice ?
Oui, je pense que ça a forgé ma curiosité à aller vers le livre, mais pas plus qu'Harry Potter, finalement, qui me bouleverse.
Qui est un livre.
Qui est un livre. Très
bon. Dernière nouvelle.
Et qui, oui, non, je pense qu'il y a une invitation à la lecture par ce truchement-là. En tout cas, moi, c'est un livre qui m'a donné envie d'en lire d'autres.
Et ça a pris quoi comme chemin ? Après, vous parlez aussi de la musique et notamment du rap et de ce que ça a joué comme véritable entrée dans la poésie et dans le rapport au langage. C'était les deux pieds, c'était à égalité. Est-ce que la musique avait plus de place dans un premier temps ? Ça s'est goupillé comment cet équilibre ?
Je pense que ça s'est joué sur des temporalités spécifiques. Harry Potter, forcément, quand on est beaucoup plus jeune, et puis quand je rencontre le rap au sens de d'aller chercher les écritures du rap et de les comprendre, ça m'a fait basculer complètement dans le lyrique et dans cet amour-là.
Oui, vous parlez vraiment d'une épiphanie, par exemple, en citant un morceau de Booba et la capacité en une seule phrase, en une seule fin de strophe notamment, de capturer quelque chose de votre existence que vous n'aviez jamais vu capturer par les mots à ce moment-là. Il y a vraiment quelque chose de très fort dans le rapport au langage.
Exactement, aussi parce qu'on arrive à se reconnaître et à se projeter aussi dans ces existences-là de personnes qui sont issues de la communauté qui raconte aussi des marginalités et on le retrouve un peu moins dans Harry Potter.
J'avance sur la pointe des pieds, je comprends pas tout, mais quelqu'un que je connais bien lit Harry Potter en ce moment et j'ai l'impression qu'appartenir, ne pas appartenir à un groupe, être différente, c'est quand même des questions qui sont agitées par cette saga.
C'est totalement vrai et je pense que dans le fantastique, on enlève beaucoup de choses qui sont issues de nos réalités et qui nous retiennent à se projeter. Et c'est vrai que ça parle de marginalité de toute façon, la sorcellerie. de manière générale.
On y reviendra parce que c'est aussi un point commun qu'on peut faire entre vos textes. Vous parlez de la fantasy, peut-être éventuellement de la science-fiction, quelque chose qui quitterait un peu le réel. On y est plutôt avec Vie mort vie dans le réel, en tout cas dans la traversée que permet la mémoire. C'est un territoire que vous avez plutôt exploré en lecture, les choses plus imaginaires, plus véritablement fantastiques.
En réalité, pas tellement. Pas tellement. Non, je suis restée dans des choses. J'ai lu beaucoup de choses qui sont issues de mon parcours scolaire et de mes études supérieures, donc en psychologie, en travail social, donc des choses très très concrètes.
Et assez théoriques.
Assez théoriques, oui.
Aujourd'hui, la lecture, elle occupe quoi comme place dans votre vie quotidienne ?
Ben, c'est quotidien. C'est vrai qu'on. Je pense qu'on réalise pas à quel point on lit, même quand c'est pas par le truchement des livres. Moi, je lis quasiment toutes les paroles des musiques que j'écoute déjà. Donc, je prends un temps supplémentaire pour vraiment aller voir ce que les gens veulent dire. Et ça prend du temps.
Je vous le disais avant que l'émission ne commence, moi j'ai rencontré votre verbe sur scène, en performance. Vous ouvriez un mix par un texte qui était psalmodié, qui était ténébreux, qui était douloureux pour ce que ça me reste, parce que pour le coup j'ai jamais eu accès à ce texte-là, mais je me souviens de quelque chose de très précis, d'extrêmement poétique. Et c'est comme ça que j'ai rencontré votre écriture. Ça tient quoi comme place ? Est-ce que vous séparez, par exemple, ce que j'ai vu ce soir-là à la Dynamo de Pantin et ce que j'ai pu lire quelques mois, je me souviens plus combien de temps s'est écoulé
C'est juste après une question de forme et de la manière dont on va se mettre à l'écriture. La poésie, ça a quelque chose de beaucoup plus envahissant, de beaucoup plus fulgurant.
Votre poésie, celle que vous performez.
Là aussi, la manière dont je l'écris avant de la performer. Et puis le format du live fait que c'est un objet qui n'est pas palpable. Donc il y a aussi quelque chose de très éphémère. C'est exceptionnel que vous en rappeliez, mais du coup.
Mais je m'en rappelle sans support, c'est bien.
Mais c'est exceptionnel aussi d'avoir un objet à soi qui vient ancrer les choses.
Ouais, on va y revenir justement à ce que c'est que la particularité du livre. Anya Nousri, vous grandissez dans un endroit où il y a des livres ?
Non, pas vraiment. Par contre, il y a des histoires, évidemment, donc ça n'exclut pas toute cette transmission qui est plus à l'oral et cet héritage. Puis ça, l'entrée vers les livres, ça s'est vraiment fait à travers l'école, au primaire. Il y avait des concours, c'était que notre prof elle faisait, c'était les lecteurs du lundi. Il fallait lire le plus de livres possible. J'essayais d'avoir des techniques pour lire le plus de livres possible. Donc c'est un peu comme ça que je me suis rentrée dans la lecture dans un pas un peu bizarre mais compétitif.
Ouais. Joyeux et compétitif.
Ouais, mais joyeux, très joyeux.
En même temps, ouais.
Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans le monde des livres.
Mais alors, ne balayons pas trop vite ce qui vient avant. Et tout ce que vous racontez de l'oralité, des histoires, en fait, il y a plein de façons de faire circuler des histoires. Et il me semble que vos deux textes racontent que tout peut nourrir le même fleuve, en fait, et que tout peut nourrir la même capacité à raconter des histoires. Quand vous dites qu'il y avait des histoires autour de moi, il y avait quoi comme histoire et qui les racontait ?
C'était vraiment des histoires familiales ou des histoires, des contes, des traditions orales. Donc que ça soit... Ça venait de manière assez spontanée. C'est-à-dire que ce n'était pas un moment où on se disait on va se raconter, mais la manière dont mon père me racontait ses histoires, son vécu, comment il nous le partageait et comment j'ai pu voir aussi qu'à travers le temps, la façon dont il nous a raconté sa vie, elle changeait selon l'âge qu'on avait.
En la transformant. Ouais, en l'adaptant.
Exactement, en l'adaptant. Donc, ouais, il y avait vraiment plusieurs récits autour de moi. Puis c'est là que je me dis que justement, le rapport à la littérature n'est pas juste cet objet livre, finalement.
Quand vous dites que votre père vous racontait sa vie, du coup, c'était plus des manières de raconter sa vie que des histoires qui avaient attrait à l'imaginaire. C'était vraiment sa propre vie, son propre parcours.
Oui, mais ça dépend. C'est-à-dire qu'on sentait des fois que ça basculait vers l'imaginaire. Et du coup, il y avait toujours cette tension entre le réel et l'imaginaire.
Aujourd'hui, les livres occupent quoi comme place dans votre vie ? Pas le vôtre, hein,
oui, oui, une place assez importante, je dirais, une place communautaire, c'est-à-dire j'aime beaucoup lire des livres des personnes issues des marges. J'en fais vraiment presque une mission de découvrir ces livres-là. Et,
toutes les marges confondues.
Oui, exact. Et de faire des liens, parce que toutes les luttes, elles sont interconnectées. Donc de faire des liens entre ces marges-là et puis de créer comme une sorte de toile d'araignée de personnes qui ont... des choses super intéressantes et pertinentes à raconter.
Ça n'a pas toujours été facile, justement, dans la marginalité ou les marginalités, de constituer des bibliographies, de trouver des récits, de trouver des récits sous forme de livres. Il y a quelque chose qui est quand même dans un profond essor, dans la possibilité d'accéder. Vous, ça fonctionne comment? Comment vous les avez, ces livres-là?
Au début, quand je me rappelle, quand j'étais jeune, c'était très difficile.
Donc vous n'êtes pas non plus très âgée.
Ouais, c'est ça. Mais quand un peu plus jeune. Ouais, c'est ça. Quand j'étais ado, on va dire, je trouvais difficile de me reconnaître dans l'écriture, puis... surtout au Québec, on n'avait pas beaucoup de gens, par exemple, racisés qui écrivaient à l'époque, ou même dans les productions culturelles, que ce soit les films, les séries qui se faisaient au Québec, on n'était pas beaucoup représentés, et des fois parfois mal représentés. Puis je me suis beaucoup retrouvée ailleurs, dans ce qui se faisait en France, donc dans certains films, qui aujourd'hui je pense que je les regarderais, je me disais, ah, c'est quand même un peu cliché, mais dans certains films, ou dans certains... un peu comme vous, dans le rap, beaucoup, donc ça a été vraiment une porte d'entrée dans l'écriture. C'est mes cousins qui vivent en France qui m'ont fait découvrir le rap français.
Vous pensez à quoi, par exemple? Je suis désolée, hein, une fois n'est pas coutume, mais j'ai écouté l'émission Réplique samedi. Voilà, ça m'arrive de temps en temps, et j'ai entendu cette phrase: nous allons laisser tout un peuple analphabète à son rap. Je me suis dit, vraiment, il y a vraiment un gouffre de méconnaissance dans cette phrase. Donc peut-être pour aider à réduire ce gouffre de méconnaissance, est-ce que vous pouvez nous parler de la musique que vous avez rencontrée, et qu'est-ce que ça a produit qui viendrait à l'inverse d'un peuple analphabète laissé à son rap?
Je dirais que peu importe l'imaginaire que je développe, dans cet imaginaire, il y a cette conscience sociale, de collectivité et de conscience de justice sociale. Et c'est littéralement ce que j'avais retrouvé dans le rap que j'écoutais à l'époque, donc très jeune. Donc moi, ça a été l'introduction, ça a été La Fouine avec Unité. C'était genre le premier son que mes cousins m'avaient fait découvrir. Puis à partir de là, ça a éveillé quelque chose, et je pense que c'est ce que j'ai retrouvé dans le rap. J'ai pu le garder tout au long de ma vie dans diverses causes, luttes qui me tiennent à cœur. Et par conséquent, je suis pas du tout d'accord avec le fait que
il est tout un peu
analphabète, pas du tout. Et au contraire, c'est une écriture, c'est-à-dire c'est une écriture et qui est travaillée, qui plus est.
Et justement, quand par exemple vous découvrez ce groupe-là, vous avez une attention aux mots, vous avez une attention à l'écriture, et pas seulement aux thématiques qui vous agitent et qui vous intéressent déjà.
Exact. Il y a vraiment ce rapport aux mots, aux images, aux sonorités, donc finalement fait sens avec la poésie. Tout se retrouve, mais encore une fois, c'est une écriture qui vient démarche. je me répète un peu, mais ça fait comme une queue de poisson, mais tout fait sens finalement du pourquoi. Est-ce que c'est ça qui est venu m'interpeller
Est-ce que ça a réveillé, ou est-ce que ça a éveillé un rapport aux mots qui était pas aussi révélé pour vous, le fait de découvrir cette forme d'écriture?
Ouais, totalement. Je dirais que c'est venu alimenter une esthétique, je dirais.
Globale.
Ouais.
Dans laquelle il y a les livres.
Exact.
Au milieu d'autres choses.
Exact.
Vous écriviez sur Instagram, Chouf, en juin 2025, début juin: j'ai écrit Vie mort vie pour tous ceux qui, comme moi, ont grandi en pensant que les livres n'étaient pas faits pour eux. C'est ma façon de dire que nous existons, que nos histoires comptent, que chaque voix, même discrète, a sa place dans le souffle de la littérature française. Ceux qui se croient enfermés dehors, qui survivent, qui renaissent et transforment la douleur en beauté. Vous rencontrez autour de vous des jeunes gens dont vous voyez qu'ils se disent que les livres ne sont pas pour eux?
Je me le suis dit moi-même, donc a priori, je pense que ça n'a pas, tellement changé. Et de mes fonctions d'éducatrice spécialisée sur 9 ans, c'est un constat, c'est un constat. Et heureusement, quelque part, qu'il y a le rap pour inviter au mot une partie de la jeunesse, en tout cas qui s'y intéresse et qui s'y retrouve. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que le rap n'a rien à envier à la littérature, du fait que ce soit une culture en soi, et que évidemment il y a énormément d'artistes rap qui sont pour moi les poètes de ce siècle. C'est juste différent. Ces différents styles. Voilà.
On va parler de vos deux textes juste après ce morceau de Mohamed Lamouri que vous évoquez dans votre livre Chouf. C'est un musicien aveugle qui s'est notamment fait connaître sur la ligne 2 du métro parisien en tenant comme ça, calé entre son épaule et sa joue, un synthétiseur à pile, et qui l'a vu ou entendu ne l'oublie pas. Thank you.
خطوات بينك وبيني كلي حتى حجم مصر اللي كان بينك وبينك حتى لابغى ويلك يا راكي تعبينك يا ما تخليش الحب بينك وبينك يا ما نجمش نشوفك عمري
Club, Marie Richeux.
Deux livres autour de la table de votre book club cet après-midi, deux premiers romans menés par des voix. De jeunes femmes, l'une à Montréal, l'autre en Algérie, puis Paris. Des voix capables de précis retours dans le passé, comme de glorieux bonds vers le futur, par la langue qu'elles charrient. Le danger, la honte, la mort, la maladie traînent partout dans chacun de ces textes, mais y répondent, et d'abord dans les yeux de l'enfance, par les yeux de l'enfance. Le désir de comprendre, celui d'écrire, le désir tout court, la rue, le mouvement, l'amour, le sexe et la magie. On m'a jeté l'œil, c'est le titre de votre ouvrage, Anya Nousri, paru aux éditions Le Castor Astral. Vie, mort, vie, c'est le titre de votre ouvrage, Chouf, paru aux éditions Tumult. On en parle avec vous deux, avec deux voix. Deux voix peut-être, puisque ce sont deux premiers romans. Deux voix qui parlent de la légitimité d'écrire enfin, Toni Morrison et Faïza Again.
Moi, je suis la première de ma lignée à avoir fait ce geste. Je le fais de gauche à droite. C'est pas ma langue. Je le fais tout court. Je m'exprime. Avant moi, les choses ont été tues. Dans mon histoire et dans la tradition, ce qu'on m'a donné, ce dont j'ai hérité, c'est des histoires orales qui ne se sont jamais écrites. Et donc là, il y a déjà le geste, pour moi, il est subversif. Ça soulève la question de qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de valable, et qu'est-ce qui fait de votre culture une culture valable. Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas écrite qu'elle n'est pas valable? Est-ce que c'est parce qu'elle doit être reconnue?
You have to understand that I was not interested in that legacy. Ever until I began to write. It was just my family and their idiosyncrasies and their stories. They came into play when I was looking for those silences and those absences in the literature. And then naturally what I filled it with was my recollections, my memories of my own people.
Bien, il faut que vous sachiez d'abord que cet héritage ne m'intéressait pas le moins du monde tant que je ne m'étais pas mise à l'écriture. Et moi, ce qui me plaisait, c'était effectivement cet univers familial avec ses idiosyncrasies, toutes les histoires que l'on se racontait. Mais ce n'est qu'après, lorsque je me suis mise à rechercher dans la littérature ce silence et cette absence que je ressentais de façon très forte, qui affectait mon peuple. Et j'ai commencé à vouloir remplir ce silence et cette absence avec mes propres souvenirs.
Elles parlent toutes les deux, évidemment, deux autrices, deux femmes différentes et dans un champ littéraire très différent. Faïza Again, autrice française, et Toni Morrison, autrice américaine, d'un silence après quoi elles écrivent et de la légitimité lente à venir d'écrire après le silence. Faïza Again dit « je suis la première à le faire ». Juste déjà, je le fais et en ça, c'est subversif. Est-ce que ça vous parle? Et puisqu'on parle de votre premier roman, Anya Nousri, on ne m'a jeté l'œil. Est-ce que l'idée de la subversion juste à écrire est quelque chose qui vous parle?
Oui, totalement. Puis justement, quand je parlais il y a quelques minutes, je pensais justement au propos de Faizagan par rapport aux histoires et celles qui existent avant l'écriture. Je suis vraiment d'accord avec ses propos.
Dont elle dit qu'elles ne sont pas obligées d'être écrites
pour
atteindre une valeur, pour atteindre une valeur d'existence.
Ouais. Exactement, oui, je partage totalement. Par contre, dans l'acte d'écrire, finalement, dans cette question de légitimité, je trouve que c'est quand même difficile quand on écrit sur les siens, avec les siens. Je pense qu'on n'écrit jamais tout seul, déjà, de base. C'est-à-dire que dans l'acte d'écrire, il y a tout ce qui tout autour de nous, tous les gens que nous côtoyons, tout l'amour qui nous porte nous permet d'écrire. En fait, c'est ça que, enfin, pour ma part, me permet de passer le cap de l'écriture, c'est que je me sens accompagnée dans cette écriture, comme si j'avais des fantômes qui existaient tout autour de moi et qui me chuchotaient, en fait, ces histoires-là. Et par conséquent, c'est ce qui va me donner peut-être cet élan de me lancer dans cet acte de partage, mais toujours avec cette considération que il y a peut-être quand même une trahison quelque part à écrire avec les siens, et beaucoup de précautions aussi sur ce qu'on montre, sur ce qu'on cache, sur ce qu'on laisse en suspens, ce qu'on ne dit pas, et pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses que je dirais. Donc
c'est des choses qui ont joué dans l'écriture de votre texte,
totalement,
de peser ça.
Oui, bien sûr, et de toujours me dire si j'écris, c'est-à-dire même dans l'écriture, je me disais pas forcément qu'il allait être publié ce texte, mais si j'écris et que un jour c'est lu, qu'est-ce que ça implique, c'est-à-dire qui lira ces voix-là, qui lira ces histoires, et comment les écrire dans ce cas-ci, comment trouver la forme et pas juste les mots, mais les silences aussi pour les dire.
On y viendra à la forme et au silence, parce qu'il y a beaucoup de blanc sur les pages de votre roman et vous avez opté pour une forme très fragmentaire. Pour ce qui est de vous, Chouf, comment est-ce que vous entendez la voix et de Faizagan et de Toni Morrison, génération, territoire différente, qui finalement utilisent les mêmes mots pour dire la manière dont elles sont toutes les deux advenues à l'écriture d'un livre?
Alors, Faizagan, déjà, je pense, en tout cas pour ma part me concernant, que j'aurais pas pu écrire Vie Morvie sans un Kif Kif Demain. C'est plus qu'une ouverture à aussi.
C'est le titre phare et c'est l'entrée en littérature de
Faizagan. Oui, en tout cas pour moi, je la découvre du coup étant jeune, et puis peut-être que c'est la première fois que je vois un personnage qui est une jeune fille maghrébine. Donc c'est vrai que il y a quelque chose qui s'opère à cet endroit-là, en tout cas dans l'objet livre.
Et ça fait quoi?
Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'il y avait un gouffre peut-être avant de pouvoir se projeter dans des personnages comme ça, et ça donne envie aussi de s'écrire soi-même. Ça fait naître des volontés, des vocations en tout cas.
Et pour ce qui est justement de s'écrire soi-même, très belle façon de parler de votre travail, Chouf, est-ce qu'il y a l'idée d'un vertige lié à une subversion? C'est ce qu'utilise, je crois, Faizagan, ou en tout cas pour dire juste l'acte d'écrire en tant que tel, le seul fait que je le fasse, c'est subversif.
Je pense qu'à son époque, sachant qu'elle est aussi pionnière de cet endroit-là, c'est peut-être beaucoup plus subversif qu'aujourd'hui. Moi, j'écris ce premier roman après avoir performé beaucoup, donc déjà présenté mes formes d'écriture. Donc il y a quelque chose de moins, pas exceptionnel, mais c'est vrai que j'ai déjà cette pratique-là. On n'est pas 15 000, donc il y a toujours un enjeu de cet ordre-là. Je pense que peut-être le côté subversif, il se joue peut-être plus sur les thématiques abordées, sur le dévoilement, sur la question du dévoilement et de comment on raconte nos intimités. Mais je pense fondamentalement que l'acte, on s'écrit toujours soi-même. Même quand on écrit
Harry Potter.
Même quand on écrit des choses très dystopiques, etc. On s'écrit que soi-même, je pense.
C'est marrant parce que l'une et l'autre, vous êtes très consciente de vous écrire vous-même et donc d'avoir quelque chose de très intime et très singulier. En même temps, l'une et l'autre, vous faites appel à du nous. Vous dites, je ne suis pas seule. Il y a une dimension collective, communautaire, des fantômes ou des vivants. Vous dites, Chouf, nos histoires. Il y a quelque chose du nous qui contient quoi pour vous?
Le monde, Parce qu'en réalité, il y a quelque chose de fondamentalement universel dans le fait de convoquer ce type d'émotion. Moi, je raconte la sortie de l'enfance. Au demeurant, si t'es adulte, t'es sorti de l'enfance, donc tu peux comprendre quelque chose de ce que je raconte. Au-delà de ça, il y a quelque chose de fédérateur. Je pense que quand on écrit, on n'écrit pas forcément avec la volonté de vouloir être lu par tous, mais on aime à croire qu'on va être reçu quelque part par une sensibilité qui pourra en miroir, voilà, se reconnaître.
D'ailleurs, le titre de votre livre ne peut pas être plus universel. Vie, mort, vie, c'est quelque chose qui globalement nous concerne toutes et tous.
C'est ça, c'est une dédicace au livre d'une femme qui m'a bouleversée, qui s'appelle Femme qui court avec les loups, et qui parle du coup des archétypes de la femme sauvage. Voilà, voilà.
On écoute un premier extrait de votre texte.
À 4 ans, l'archouma, c'est un mot mystérieux. Les adultes le prononçaient toujours avec la même intonation, un mélange de sérieux et de reproche. Archouma tim, ça se fait pas. Mais c'était quoi exactement cette chouma qu'on ne devait pas faire? Une chose qu'on sent sans comprendre, mais qui te fait quand même baisser les yeux. L'archouma, par exemple, c'était de ne pas rire trop fort, surtout quand les grandes personnes parlaient. Ma grand-mère ajustait toujours son foulard avant de sortir, se regarder dans le miroir, tirer doucement le tissu, vérifier que tout était en place. Mais pas pour elle, pour les autres, toujours les autres. Ce qu'ils allaient dire, ce qu'ils allaient penser, ils avaient le pouvoir de déclencher l'archouma ou pas. Sur le balcon, quand je regardais trop longtemps les passants, on me rappelait à l'ordre. Regarder les gens, ça ne se fait pas. L'archouma, c'était aussi comment on s'assoit. Les jambes croisées, bien serrées, pas les genoux écartés. Mamicha me regardait avec ses sourcils froncés et je savais que je devais me remettre bien. C'est pas joli pour une fille, c'est rib.
Il y a deux choses qui m'intéressent, au moins deux, dans ce premier extrait de votre texte, Vie, mort, vie. Je trouve que c'est la position d'enfance dans le regard. Et la manière dont tout votre texte commence comme vraiment une sorte de caméra embarquée dans un corps de petite fille, et ce qui est capable de comprendre du monde des adultes un enfant. Et puis la présence de la honte, qui est d'emblée ici, et qui sera aussi dans votre texte. Tout à l'heure, en début d'émission, on entendait la voix d'Annie Ernaux, qui a énormément travaillé la question de la honte dans sa littérature, et qui a accompagné la sortie de votre texte avec des mots puissants, en louant la publication de Vie, mort, vie. Alors peut-être sur ces deux choses-là, la place du regard, notamment celui de l'enfance, et le rapport à la honte.
Pour écrire toute cette première partie qui est vraiment auteur d'enfant, j'ai dû aller dans une forme de dénuement et déconstruire beaucoup de jugements de valeurs que j'avais sur les choses, et notamment sur la question de la honte. Et je pense que ça a été un des défis les plus complexes, juste en termes d'écriture. Et
est-ce que vous voulez bien préciser cette idée ?
Bah, l'idée, c'est que je voulais pas écrire un... Je pense que c'est facile de rentrer dans des choses qui sont très stéréotypées quand il s'agit d'écrire à hauteur d'enfant. Et du coup, j'ai dû me poser peut-être quasiment à chaque phrase, comment est-ce que tu l'expliquerais à un enfant sans être mielleux, en accordant toute la vérité que tu lui dois. Donc, je me suis retrouvée en fait à écrire ça, en fait, comme si j'avais la version de moi qui est une petite fille. Donc, je me suis adressée à elle avec toute la vérité que je lui dois pour retranscrire une histoire commune le fait de désapprendre tous les jugements de valeur qu'on peut exercer sur notre propre histoire, c'est ce qui m'a amené à cette langue-là.
Et peut-être c'est une manière de regarder, parce que la question du regard et des yeux est tellement présente partout, dès le nom que vous utilisez pour performer et pour écrire. Chouf, c'est regarde.
Absolument.
Là, il est vraiment question des yeux, mais c'est vraiment tout le champ possible du regard, c'est-à-dire... Le regard posé sur l'amour, sur le deuil, sur une petite sœur, sur une mère, sur les parents, un regard qui cherche à comprendre. Et puis il y a le regard de la honte qui est plus le regard qui condamne, qui empêche. Mais on a l'impression que toute votre écriture, d'une certaine manière, ou tout votre art, si on englobe le reste, a à voir avec le fait de voir, de regarder.
Oui, parce qu'on ne regarde pas qu'avec les yeux, et je pense que dans les sensibilités, il y a des multiplicités de manières de voir, de se voir, de comprendre les choses. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de convoquer dans ce livre, puisqu'on passe aussi par des regards différents à travers les âges. Et sur cette question de la honte, on voit comment elle peut façonner un individu. Et puis on peut voir aussi comment on essaye de s'émanciper de ça en grandissant aussi.
Oui, et comment elle peut revenir par d'autres portes qu'on n'avait éventuellement pas prévues.
Exactement.
La voix aussi d'Annie Ernaux, parlant précisément de son livre « Mémoire de fille », qui disait « En écriture, c'était une manière de rejoindre la jeune fille que j'étais ». C'est une archive qui date d'il y a quelques années dans la grande librairie. Il me semble qu'il y a vraiment une façon, alors je ne sais pas si c'est exactement l'enfant que vous étiez, mais peu importe, il y a quelque chose de l'enfance que vous rejoignez très très fort, je trouve, dans ce texte. Comment c'était, cette expérience-là? On a l'impression que vous pouvez retrouver des souvenirs qu'a priori on n'a pas forcément gardés dans cette précision. Ça vous a permis quoi, l'écriture comme une sorte de vrai voyage dans le temps, quoi?
Je pense que cet exercice de s'adresser à la version de soi qui est un enfant, c'est un exercice qui est profondément réparateur. Je pense que même si ça s'exerce pas dans le cadre de l'écriture d'un roman, c'est vraiment une expérience sensorielle sans limite. C'est assez exceptionnel de se parler et de se re-raconter les choses à partir de ce prisme-là. Et au-delà de l'écriture de ce livre, c'est un exercice qui a été ultra intéressant pour moi, pour aller chercher justement de qu'est-ce qui est de l'ordre du vrai souvenir et qu'est-ce qui est en réalité un remaniement, un ensemble un ersatz de photos, de choses qu'on m'a racontées, de choses qui m'ont été transmises. Donc aller faire le tri dans tout ça, avec la volonté d'aller y trouver une vérité à soi qui fait du bien. La démarche était là, en tout cas, sur toute cette première partie.
D'autant que cet enfant et puis cette jeune adolescente, elle est soumise à beaucoup de choses qu'elle ne peut pas comprendre. C'est que beaucoup de choses du monde des adultes, à commencer par la mort, la menace de la maladie, le deuil d'un enfant, c'est quand même que des choses qui sont comme inintelligibles. Et d'ailleurs, elle dit « on pleurera quand on aura compris ». Il y a quelque chose du rapport entre le chagrin et la compréhension. Et finalement, vie-mort-vie, moi j'ai aussi l'impression d'une sorte d'expérience très initiatique pour, retraverser les choses en les assimilant, quoi, par le langage.
Et oui, par ailleurs, c'est aussi, je pense que la découverte de la lecture, de la poésie, vient donner une nomenclature à un ensemble d'émotions et de sentiments qui sont vécus, qui sont, je pense, indigestes à un âge où on ne peut pas le comprendre. Et ce sont les mots, finalement, qui viennent expliquer plus tardivement.
Les mots pour le dire permettent de comprendre, quoi.
Exactement. Et notamment sur la question de la poésie qui vient dire avec des images et qui vient raconter les choses sans qu'elles soient ultra crues, avec une rigidité. Et il y a beaucoup de beauté, justement. Ça permet de mettre de la beauté dans ces sentiments difficiles à entendre quand on est un enfant de 7-8 ans, quoi.
Anya Nousri, la question de la honte, elle est d'emblée là aussi, dans votre texte. Elle a d'autres acceptions que celles qu'on vient d'entendre, mais en fait, ça se rejoint très fort. Et d'une certaine manière, on peut dire que « On m'a jeté l'œil », c'est un texte là-dessus. Mais sur toutes les hontes qui pèsent sur cette narratrice, est-ce qu'on pourrait les détailler, ces hontes?
Il y en a pas mal. Oui, il y en a pas mal. Je dirais déjà la honte d'être soi.
Qui est la plus grande, cette, dans ce texte.
Oui. C'est la honte d'être soi, mais qui finalement, c'est aussi cette honte qui lui permet de se construire. C'est-à-dire, elle se construit en opposition et avec cette honte-là en même temps. Donc, il y a la honte d'être une déception pour sa famille, mais il y a aussi la honte de se sentir insuffisante par rapport à ce monde occidental qui lui demande toujours de. Qui l'exige de ne pas exister, qui lui exige de ne pas exister
entièrement, en tout cas.
Oui, exact. C'est vraiment une trajectoire où elle cherche à exister à travers cette honte-là. Puis je dirais aussi la honte qui s'accompagne aussi d'une certaine pudeur dans les mots. Donc il y a un moment où je parle d'un cancer à l'utérus et on dit il y a qu'un seul cancer, on dit l'intime, donc un cancer qui est là et qui a qu'un seul cancer dont on voudrait taire le mot, c'est l'utérus. Donc il y a aussi ce rapport à la honte et au langage, en fait, qu'on peut aussi retrouver dans le texte. Donc des fois, dans une pudeur où on ne veut pas dire les choses, et des fois, au contraire, dans des termes très, très crus, pour finalement signifier c'est quoi aussi cette violence quand on ressent et reçoit cette honte. Donc il y a des termes assez violents que j'emploie pour faire traverser ce sentiment.
Oui, parce que la honte, elle est parfois très physique, quasiment organique, vous le dites, ça touche presque à l'intérieur du corps de cette narratrice. Et puis parfois, elle tient dans le langage, mais d'ailleurs, on l'a entendu aussi dans le texte de Chouf, c'est certains mots pour dire la honte, ou certains mots qui, quand ils sont prononcés, suffisent à faire planer la honte. Il y a un rapport très, très fort là-dessus. Mais ça m'intéresse quand vous dites que finalement, c'est un texte qui part de la honte d'être soi pour devenir soi, sans s'être complètement débarrassé de la honte, mais composé avec ça.
Oui, je pense qu'il y a vraiment aussi, dans cette honte, il y a quand même une affirmation, c'est-à-dire décrire la honte, par exemple, que c'était de se sentir une jeune Algérienne, mais différente à l'école primaire, où il n'y avait pas beaucoup de personnes racisées, mais c'est aussi une façon de s'affirmer et de dire, dans ce rapport de racialisation, je suis aussi. Décrire cette honte, c'est aussi une façon de dire, et alors je suis...
C'est se choisir,
comme ça.
En fait.
Exactement, c'est je suis comme ça, et puis c'est de constater en fait toutes ces violences, à force de constater toute cette violence là, et dans une perspective peut-être dans les fragments où c'est plus dans l'adolescence, il y a ce sentiment de honte, mais on sent en fait que à travers les différentes temporalités, elle se choisit.
Vous parliez tout à l'heure de la pudeur et de la manière dont vous faites exister les silences dans ce texte, et je le disais, vous avez choisi une écriture fragmentaire, des courts chapitres qui sont aussi courts mais moins courts chez vous, Chouf, et il y a du blanc, il y a du silence dans les pages. Est-ce que finalement, répondant à la honte, il y a quelque chose qui est peut-être plus vivant du côté de la pudeur, moins violent?
Forcément. Je pense qu'il y a, c'est-à-dire, c'est une façon de s'exprimer qui peut en dire beaucoup et qui parfois justement a beaucoup d'amour à donner dans cette pudeur, dans cette idée de ne pas tout dire. Même si je pense que c'est un texte quand même qui est assez cru, qui dit des termes, mais que d'un autre côté, je pense que cette façon aussi d'écrire en fragments et d'arrêter un peu et puis ensuite repartir sur autre chose et de revenir, cette désorganisation permet finalement de ne pas tracer de linéarité et donc de ne pas correspondre au code non plus avec laquelle on s'attend dans la narration. C'est ça, dans la narration et de se raconter. Donc ça, je trouve que cette forme en fait fragmentaire et de temporalité, elle a beaucoup aidé à détourner. Finalement.
De la même manière que vous avez dit, il y a une palette très large des sentiments de honte que l'on peut explorer avec ces textes-là. Et pareil, du côté de la pudeur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va être un cant à soi, qui guérit, qui fait du bien, qui répare. Mais il y a aussi des pudeurs qui sont difficiles. Il y a, à la fin du texte, par exemple, il y a une scène où ce serait bien que quelques mots soient dits. Ce serait bien que quelques mots d'amour juste soient prononcés. Il y a des pudeurs qui continuent de faire manquer les mots au corps. Je sais pas comment le dire mieux.
Je vois ce que vous voulez dire, mais d'un autre côté, l'amour se dit autrement. Je pense que dans le texte, que par rapport aux mots, c'est dans les gestes aussi. C'est un texte où je reprends beaucoup de rituels, de guérison, de protection, qui parfois peuvent, même dans les rituels eux-mêmes, on peut se dire c'est violent, mais il y a toujours cette volonté de prodiguer un soin à l'autre et qui est une façon de dire l'amour.
Et d'apaiser.
Exactement, et de faire du bien à l'autre. Et il faut toujours se dire dans l'intention de la personne, qu'est-ce qu'elle voulait faire finalement? Et elle voulait prendre soin de l'autre, elle voulait protéger l'autre dans sa propre perspective. Donc à partir de là, je pense que même si c'est-à-dire c'est peut-être une façon quand même un peu occidentale de se dire l'amour on le dit par les mots. Et dans un livre, peut-être on s'y attend. Ben, je pense que c'est aussi par les gestes qu'on se dit qu'on s'aime et qu'on le montre.
Et on le chuchote comme ça. Dans le rituel, en effet, il y a quelque chose du soin qui apparaît très fortement. On écoute un extrait de votre texte « On m'a jeté l'œil ». «
J'ai passé quelques mois chez ma tante, à Paris. Elle a l'habitude de faire jouer le Coran en boucle. On écoute différentes sourates. Ça m'apaise, elle me dit. Moi, je suis juste tannée, mais je ne le dis pas. Sinon, elle va croire que je suis habitée par le shaitan et m'emmener me faire exorciser chez un imam. No thanks. Après quelques semaines, je commence à déprimer. Irritable et chiante, je dors toute la journée. Convaincue qu'on m'a jeté l'œil, elle me propose le rituel du sel. Une poignée dans sa main qu'elle tourne 7 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Elle murmure à mon oreille des incantations. Elle pose son poing sur mon crâne, tout en exerçant de petites pressions un peu partout. Elle récite des conjurations puis me demande de souffler sur sa main. Elle se lève, ouvre bien grand la fenêtre et parle dans un mélange de kabyle et d'arabe. Elle embrasse son poing, l'ouvre, souffle sur sa pomme. Le sel est emporté par le vent. Je me sens tout de suite apaisée.
On a commencé par parler de la dureté, de la honte, et puis de tout le racisme systémique qui se dissimule dans des micro-agressions, puis des très grandes agressions, puis d'autres agressions. Et puis il y a tous les endroits de réparation dans ce texte, qui passent notamment par ces rituels-là, petits ou grands, plus ou moins teintés de magie. Quelle place vous vouliez leur donner dans « Ma jeté l'œil » ?
C'est effectivement cette place-là. C'est magnifique ce que venait dire réparation, parce que je pense que c'est...
C'est vous, hein,
Et je pense que c'est vraiment... c'est vraiment ça. C'est-à-dire le soin et l'amour qu'on se porte collectivement. Puis, je trouve que c'était aussi une façon, à partir de ces rituels-là aussi... puis c'est venu plus tard aussi dans ma réflexion, mais c'est que... Dans la façon dont on s'écrit et dont on est écrit, c'est souvent à travers certains motifs qui se répètent un peu. C'est-à-dire, par exemple, cette idée de l'entre-deux, je suis ni d'ici ni d'ailleurs. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on va peut-être un peu, qu'on va beaucoup retrouver dans nos écritures. Puis, cette idée de ramener finalement les rituels, ça amène à des discussions. Ça amène à se poser la question, puis de se dire, ah bah oui, moi, dans ma famille, ça se passe comme ça. Ou non, moi, au contraire, le côté spirituel dans ton livre ne me parle pas du tout, c'est pas du tout comme ça qu'on le vit. Ce rituel était pratiqué, puis je réalise qu'en fait c'est le quotidien, c'est-à-dire que ça, c'est une façon de se raconter, de se voir, mais qui passe à travers des gestes du quotidien, qu'on oublie même que c'est un motif qui est pourtant qui peut être très présent ou pas du tout présent, parce qu'on n'a pas justement, il n'y a pas juste une façon d'être d'origine maghrébine, c'est particulier à chacun chacune, mais je sens que ça a permis d'avoir un point où on pouvait avoir des partages, et même on me dit, ah, moi dans ma famille c'est comme ça qu'on le fait, ou nous c'est plutôt c'est pas le sel, ça va être de cuire un œuf. Toi, est-ce que t'as déjà essayé de faire couler l'eau du robinet? Donc c'est aussi ça permet de créer un partage, et c'est-à-dire ça va vraiment venir dépasser le texte, cette idée de communauté. Donc il y a la communauté du texte qui se fait à travers ces différents personnages, ces différentes femmes, mais il y a aussi la communauté que j'ai pu retrouver par ailleurs et qui est aussi
mais une façon de guérir. Ce que j'entends et qui est assez beau dans ce que vous dites, Anya Nousri, c'est pour ça que je disais que dans vos deux textes, il y a une manière de faire des retours précis dans le passé, mais aussi de faire beaucoup de bons vers le futur, beaucoup de bons vers le présent. C'est que en écrivant ce que vous écrivez ce qui est là. Et ça permet de sortir d'une grammaire qui, pendant très longtemps, s'est tournée du côté de l'exil, de l'arrachement, de ce qui manque, de ce qui n'est pas là. Or, j'ai l'impression, ça veut pas dire que c'est inexistant des considérations des textes que vous écrivez, mais simplement, c'est plus uniquement cette grammaire-là.
Mmh, totalement, c'est qui on est. Avec ce que nous avons comme héritage, et qu'est-ce qu'on en fait de cet héritage-là, au lieu de se poser la question de, bah, comme vous avez dit, du manque. Je trouve que ça, encore une fois, c'est très bien dit. C'est vraiment un texte, je pense, de personnes qui, malgré la honte dont on a parlé, mais qui s'affirment actuellement à partir de l'héritage et de la transmission intergénérationnelle.
On a entendu c'est des gestes pas mal portés par des tantes qui forment comme une sorte de cœur dans votre livre. Il y a aussi un personnage de tante qui est très important dans votre livre Vie mort vie, Chouf, qui est la tante Bouchra, qui est une sorte de très grande lumière d'affection, et puis elle est mise au banc de la famille pour des raisons violentes. Mais ça me fait parler peut-être de quelque chose qui excède la famille dans votre livre Chouf. C'est-à-dire que bien sûr il y a la famille, il y a les parents, il y a les frères et sœurs, il y a quelque chose de très important, mais il y a aussi toute la coparentalité, une manière de d'élargir qui éduque qui n'est plus le seul noyau, mais par exemple une rue, une musique, participe à la vie et à l'émancipation de cette narratrice.
Mmh. Oui, on dit qu'il faut un village pour éduquer un enfant. Il y a un peu c'est quelque chose que j'ai pu vivre moi en Algérie sur mes toutes premières années, puisqu'il y a toute la famille qui me garde quand mes parents sont au travail. Et il y a le choc ensuite de se retrouver dans un HLM avec ses deux parents. Donc c'est vrai que c'est des modes d'éducation complètement différents. Et il y a cette solitude, je pense, que tous les parents portent à se retrouver seuls aussi dans l'éducation. Qui sont amenés à donner à leurs enfants, et c'est à l'échelle de l'histoire, c'est relativement nouveau qu'on se retrouve dans une solitude aussi forte dans le geste d'éduquer. Et moi, je l'ai retranscrit comme ça parce que ça s'est passé ainsi, mais en réalité, c'est je trouve passionnant d'aller voir dans les sciences sociales, qu'est-ce que ça veut dire aussi de notre société aujourd'hui. Je trouve que c'est une immense responsabilité que d'éduquer un enfant seul ou même à deux, replié dans un appartement comme ça. C'est...
Ouvrir les portes et les fenêtres peut être une bonne idée. Il y a quelque chose en tout cas qui, du mouvement, on a parlé du premier temps, de l'enfance, de la maladie, du deuil, du départ de l'Algérie, du sida aussi, qui plane très fort et plus que fort sur cette famille. Et puis à un moment donné, cette narratrice, justement, elle sort, quoi. Elle quitte le... Et il y a quelque chose qui se passe plus dehors pour elle. Qu'est-ce qu'elle trouve dehors? Qu'est-ce qui est justement le véhicule de quelque chose de nouveau pour elle?
Bah, je trouve que dès l'enfance, il y a ce truc, quand je décris le quartier de Belleville, moi j'y arrive à un moment dans ma vie où j'ai l'impression d'être très seule comme enfant. Et en fait, par le biais de l'épicier, de la boulangère et de l'ensemble des personnes en fait qui traînent sur ce territoire, ça devient aussi des formes de parentalité, même si elles sont beaucoup plus éloignées et que elles n'incarnent pas ce rôle et ces responsabilités-là, mais ça reste en fait une continuité. Il y a une continuité là-dedans, et puis dans ces petits quartiers qui sont aussi des petits villages, finalement c'est tout le monde qui porte ces responsabilités-là, même si elles sont pas dites, même si c'est pas forcément tacite.
Même si tout le monde ne le porte pas aussi bien.
Absolument. Non, effectivement. Mais il y a quand même ce regard de la personne qui te reconnaît tout le temps. Voilà, et je trouve ça fort.
Oui, parce que c'est aussi soigné par votre écriture de les reconnaître, justement, ces co-responsabilités ou co-parentalités, pour utiliser des grands mots.
Exactement.
On va écouter Aurore, auditrice du Book Club. Elle vous a lu Anya Nousri, elle vous pose une question, mais c'est une question qu'on va pouvoir faire circuler entre les deux textes.
Bonjour le Book Club, bonjour Anya Nousri. J'ai lu votre livre, On m'a jeté l'œil, et j'ai pris une sacrée secousse. Je l'ai trouvé intense. J'ai adoré l'audace de ce texte et j'ai tout spécialement aimé aussi le mélange des langues, le créole presque que vous créez en employant bien sûr largement le français, mais aussi un petit peu d'argot québécois, d'anglais, d'arabe, d'amazir. Et je voulais vous écouter sur ce choix de ne pas faire traduire les expressions employées. Voilà, je vous remercie pour votre éclairage et merci pour cette magnifique lecture.
Merci Aurore pour cette lecture et pour cette question. Anya Nousri.
Ben déjà, merci pour vos mots, c'est trop gentil. Et par rapport aux langues, ben, je l'ai dit souvent, c'est pas quelque chose qui est nouveau dans nos littératures. Donc il y a beaucoup d'écrivains et écrivaines des coloniaux déjà, Kateb Yassine notamment, et puis par la suite il y a eu Amadou Kourouma aussi qui fait ce travail sur les langues, donc je tiens toujours à le rappeler parce que ça fait partie de cet héritage-là d'où je m'inscris. Puis c'est une façon pour moi de dire, quand je les traduis pas en fait, c'est une façon de dire ce monde c'est mon univers, je suis toujours l'étranger étrangère, ailleurs. Et puis là, c'est chez moi, donc c'est aux autres de faire le travail et de s'adapter. Et c'est pas à moi de surexpliquer. Puis ça donne aussi, je pense, un peu l'adresse à qui je m'adresse quand j'écris. C'est vraiment à des gens à qui c'est comme un peu une insight, c'est-à-dire c'est à ces personnes-là aussi à qui j'ai envie de dire certaines choses. Et cette c'est-à-dire le fait de bande, comme il explique Edouard Glissant, le fait de rester opaque, ce droit à l'opacité, c'est aussi une façon pour moi de m'adresser aux miens, aux miennes. Puis je conclurai aussi avec le fait que c'était important pour moi de faire vivre toutes les langues qui m'habitent, et mention spéciale vraiment à ce slang montréalais qu'on retrouve pas qu'on retrouve pas carrément du tout dans la littérature au Québec. Par exemple, en France, notamment, vous avez parlé de Faizagan, mais dit Sharif, etc., il y avait quand même plusieurs textes qui introduisaient du verlan déjà, et puis ça date, c'est-à-dire c'est pas récent du tout. Nous, on s'est encore timide, donc ça, c'était une façon pour moi aussi de dire ben on est fiers aussi d'avoir cette langue qui est souvent stigmatisée.
Et on est ça, pour en revenir à ce que vous disiez, d'écrire juste ce qui est là et ce qui est. La question du langage, on l'a dit, on en a parlé déjà, Chouf, mais ça existe aussi dans votre texte, Vimorvi.
Ouais, bien sûr. Je pense quand on est aussi morcelé dans son identité, on est obligé de créer des mots et d'en faire quelque part une culture. Je pense que l'argot est une, enfin, ça décrit une culture en soi qui est complètement légitime. Et peut-être qu'à force d'exister, à force d'être écrite, c'est par ce truchement-là qu'elle en devient complètement légitime et que nous, on arrive à devenir plus opaque, justement.
Mmh. Ce qui résout pas la question de la légitimité par l'écrit, c'est encore c'est très fort, le fait que cette langue-là, elle trouverait sa légitimité parce qu'elle est écrite. En fait, elle trouve sa légitimité parce qu'elle est parlée. Il y a quelque chose de fort, quand même, encore, qui tient au livre et à ce que ça permet.
Ce qu'on disait tout à l'heure, avoir un objet à soi, ça met aussi les récits dans un autre niveau. Je pense qu'on en est un peu encore là, en réalité. Même si l'oralité, en tout cas, le fait de faire de la scène et de déclamer, il y a plus d'hésitation. On est là. Mais un livre, ça reste pour toujours. Et c'est en ce sens-là que, du coup, on crée de la culture, on crée notre héritage.
On est là. Le Book Club continue.
France Culture. Le Book Club. Marie Richeux.
C'est une horaire comme une autre pour arriver à vous, Mathilde Hagman. Bof, pas hyper à l'heure. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Vous nous parlez de littérature jeunesse comme chaque semaine et aujourd'hui vous allez nous parler de théâtre.
Et oui Marie, et je commence par un petit souvenir. J'avais 9 ans lorsque mes parents eurent la bonne idée de m'emmener voir au Théâtre du Soleil à la Cartoucherie de Vincennes. Plusieurs des spectacles qu'Ariane Nouchkine et sa troupe avaient monté, qui comptaient la terrible et fascinante histoire des Atrides. Le premier que je vis fut Agamemnon d'Eschyle, c'était je crois ma toute première fois au théâtre. Avant de rentrer dans la salle, mon père avait pris le soin de m'expliquer l'intrigue de la pièce à laquelle nous allions assister, si bien qu'avant même que le spectacle ne commence, je savais déjà que dans un épisode précédent, Agamemnon avait sacrifié sa fille Iphigénie pour obtenir des vents favorables et aller affronter les Troyens. Je savais déjà que Clytemnestre, sa femme, allait le tuer pour venger sa fille et que la suite verrait encore son fils Oreste revenir à Argos et entreprendre avec sa sœur Électre de tuer leur mère pour venger leur père. Armé par avance de la connaissance de cette histoire, j'ai pu goûter la splendeur de la représentation en toute tranquillité, éblouissement, épiphanie, émotion originelle après laquelle je cours encore aujourd'hui lorsque je vais au théâtre.
Merci pour ce souvenir précieux Mathilde, mais quel est le rapport avec la chronique du jour ?
Si je vous raconte tout ça Marie, c'est parce que le livre dont je vous parle aujourd'hui peut quant à lui servir d'introduction à un autre monument théâtral, j'ai nommé Shakespeare. Il s'appelle Les Contes de Shakespeare, il est signé de deux auteurs anglais, un frère et une sœur, Charles et Marie Lamb, et apparu pour la première fois dans son édition complète en 1807. Tales from Shakespeare en version originale, autrement dit des contes d'après Shakespeare et non pas de lui. Des contes puisés, inspirés, adaptés de ces pièces dans le but de faire découvrir aux enfants l'univers du grand William. Les éditions Helium font reparaître une sélection de 6 d'entre eux sur les 21 que compte l'édition intégrale dans une traduction signée Michel Nicli. Il s'agit autrement d'un classique de la littérature pour enfants qui connut dès sa première parution un immense succès. Marie se chargea de l'adaptation des comédies, Charles des tragédies, bien que le livre fût longtemps signé de son seul nom à lui. Dans leur préface, les auteurs en expliquaient le propos. Il s'agit s'agissait tout simplement de raconter l'histoire sous forme de résumé imparfait, comme ils les qualifiaient eux-mêmes, et ce, en guise d'initiation, de porte d'entrée vers une rencontre avec les œuvres originales, qui, le moment venu, serait d'autant plus riche qu'elle avait été préparée.
Et quelles sont les 6 pièces rassemblées dans l'ouvrage ?
4 tragédies, 2 comédies, Macbeth, Othello, Hamlet, Le Roi Lear, Le Songe d'une nuit d'été, beaucoup de bruit pour rien. Ce qui est magnifique, c'est que Charles et Mary Lamb jouent à en faire de véritables contes qu'ils ont écrits dans une très belle langue baroque et romantique. Jugez plutôt. Il y avait autrefois dans la cité d'Athènes une loi qui donnait aux citoyens le pouvoir d'obliger leurs filles à se marier à la personne de leur choix. Si elles refusaient le prétendant choisi par leur père, ce dernier pouvait alors les faire mettre à mort. Mais comme il n'est pas très courant que des pères souhaitent la mort de leur propre fille, même si elles se montrent quelque peu récalcitrantes, cette loi n'était jamais mise en application, encore que les jeunes filles de la cité fussent assez souvent menacées de s'y voir soumises. Ainsi s'ouvre par exemple Le Songe d'une nuit d'été, et l'on entend dans cette ironie la façon dont Mary Lamb s'est inspirée de la singulière fantaisie de la pièce. On a parfois l'impression de retrouver, derrière les intrigues pourtant inimitables et parfois complexes de ces pièces, un petit air d'autres contes, comme s'il y avait une circulation magique entre les grandes fictions fondatrices de nos imaginaires. Othello prend des airs de Barbe Bleue lorsque sa jalousie s'abat sur Desdémone, Gonéril et Régane, les deux aînés du roi Lear, nous rappellent les deux méchantes sœurs de Cendrillon, par exemple. Que raconte-t-on d'une pièce lorsqu'on en résume l'intrigue ? C'est une question intéressante. On pourrait dire pas grand-chose, bien sûr, mais pas tout à fait rien non plus. Je n'aurais rien dit pour finir du charme de ce livre si je ne mentionnais pas les magnifiques linogravures de Joëlle Jolivet qui l'illustre. Elle dessine les personnages comme des pantins de papier, un peu comme des marionnettes à manipuler, le livre se présentant aussi dans un coffret d'emboîtage en carton découpé qui prend la forme d'un petit théâtre avec ses loges et ses rideaux. Le tout comme une invitation à jouer avec ces pièces, à s'emparer de leurs personnages et de leurs intrigues, à les connaître au point de les faire nôtres. Le jeu, c'est bien la notion fondamentale du théâtre. C'est peut-être aussi, après tout, celle de la lecture.
Tout ce qu'on se souhaite, on rappelle le titre du livre ?
Ça s'appelle Les Contes de Shakespeare de Mary et Charles Lamb, illustré par Joëlle Jolivet. C'est paru aux éditions Helium.
Et est-ce que ça va nourrir une série que vous faites sur les contes ?
Ah, ça pourrait, absolument.
Lecture ouais, jeunesse, franceculture.fr, mais je suis là pour ça, Mathilde.
Merci, Marie.
À la fin du book club, il y a un grand jeu qui s'appelle le grand jeu des pages musicales. On s'amuse à chercher de la musique partout dans les livres. Évidemment, on a été servi dans les vôtres. On se quitte avec un extrait de Vie, mort, vie de Vouchouf. Nos rendez-vous n'étaient jamais des rendez-vous. Ça s'improvisait comme ça, au détour d'un couloir ou dans les escaliers du collège, à l'interclasse. Il traînait un peu derrière moi, l'air de rien, et puis il lançait. « Tu veux marcher un peu ?» Je disais oui, et on se retrouvait à la sortie, à marcher dans le quartier sans trop savoir où aller, juste histoire de prolonger le moment. Sur la fin, nos baskets raclaient le bitume pour ralentir la cadence et on fixait nos pieds, comme si le trottoir était le centre névralgique de notre univers. Parfois, on relevait la tête, juste un instant, assez pour se croiser du regard et lâcher une phrase un peu bancale, un peu effacée. Comme si parler trop fort aurait pu tout casser. Ceux qui traînaient balançaient des vannes au passage. « Alors Tine, c'est ton mec, lui ?» Je rougissais. Je disais « Mais non, arrête !» Comme si ça allait suffire pour faire taire les rumeurs. C'était l'époque où le quartier tout entier découvrait les premières notes d'Hysteric Love qui passaient de téléphone en téléphone. On avait l'impression que ça chantait juste pour nous. Et tu sais ce qu'on dit ici ? D'Hysteric Love à Love d'un voyou, il n'y a qu'un pas.
L'hystérique love se termine toujours mal. Le charme nous fait décoller mais on atterrit toujours mal. Des façons m'aimer, y'en a pas 50. Soit tu m'aimes à la folie ou tu aimes mon compte en banque, mademoiselle. J'ai plus la cote que mon oseille. Mieux qu'un jean slim, j'vais mouler ton cœur si tu m'essayes. Celles qui l'ont fait n'ont pas l'air d'avoir digéré. Faut gérer quand l'amour prend trop de poids, on finit par se déchirer. À trop se désirer, on prend plus le temps de se plaire. La canicule laisse toujours présager des éclairs. On zappe le meilleur pour dire le pire. Les mots dépassent les pensées, plus on y croit, plus ça empire. Trop faux pour être vrai. Entre trahison.
Merci beaucoup, Anya Nousri, d'avoir été ici au Book Club pour parler de On m'a jeté l'œil, paru à Le Castor Astral. Et merci à vous, Chouf, d'avoir été là pour évoquer Vie, mort, vie, paru chez Tumult Éditions. Au son aujourd'hui, c'était Éric Perruchot-Triboulet à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe. l'équipe du Book Club qui m'aide à penser, préparer, programmer ces émissions, particulièrement à Garance Roubieux aujourd'hui. Pour poursuivre la conversation, rendez-vous sur le compte Instagram du Book Club animé par Alexandra Laibegovitch.